y a parfois des morceaux, des passages dans la Bible, dans l'Évangile, même dans les Épîtres. Lorsque je les lis, j'ai envie de fermer ce livre, de me dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et dans mes lectures, je relisais un passage en Matthieu, chapitre 16, verset 24, où Jésus dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je ne sais pas si vous connaissez tous ce passage, et parfois quand je le lis, je me dis « Mais qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je veux vraiment être le disciple de Jésus ?» Et l'enseignement que Jésus donne à ses disciples, eh bien, il subsiste encore aujourd'hui. Rien n'a été changé de son côté. Jésus nous appelle toujours. Et pour cette foi fidèle, cette obéissance filiale, rien non plus de notre côté n'a changé non plus. Les vrais disciples, finalement, sont les hommes et les femmes qui vivent, je dirais, en association avec notre Sauveur, crucifié, ressuscité et maintenant glorifié. Soumis à sa parole, ils vont accomplir leur œuvre de foi et d'amour. Et alors, il y a trois idées dans ce passage. La première, c'est « si quelqu'un veut être mon disciple ». C'est complètement différent du langage de l'Ancien Testament. Dieu n'emploie plus le langage de l'Ancien Testament. Il ne commande plus, il propose. Il s'agit pour nous d'une invitation, nous qui sommes libres d'accepter ou de refuser. Et bien sûr, ici, il n'est pas question du salut par la grâce, dans ce passage, ni de la justification par la foi, mais de la condition de vie d'un disciple qui s'enrôle volontairement et accepte d'obéir en soldat loyal et discipliné à son divin chef. Mais jusqu'à ce que nous soyons volontairement soumis à Jésus, le Seigneur nous propose seulement de nous enrôler dans les rangs de ses disciples. Il ne nous y oblige pas, si quelqu'un veut être mon disciple. Alors, il va donner des exigences qui sont extrêmes. Renoncer à soi-même. Je ne sais pas si vous avez essayé d'expérimenter ça dans vos vies. Le Seigneur nous dit qu'il renonce à lui-même. Et c'est sur ce point précis que nous sommes mis à l'épreuve. Car si le renoncement n'est pas la base et le fond de notre vie de disciple, eh bien, la faillite nous attend. Est-ce que nous avons vraiment renoncé à nous-mêmes ? Non pas dans le but d'être loué par les hommes, mais pour être vu de Dieu et marcher dans les pas de Jésus. Alors, il faut vraiment combler ce vide qu'il y a, je dirais, cette faille géologique qu'il y a entre la passion que nous avons pour l'Évangile et que vous avez pour l'Évangile et la poursuite de la sainteté. Et plusieurs difficultés nous attendent et parfois une mauvaise compréhension. Nous avons effectivement une conception du péché qui s'exprime, et j'en suis heureux, par le rejet de ce qu'on appelle les grands péchés. Le vol, le mensonge, l'adultère, le blasphème contre Dieu, tout ça nous fait horreur et souvent nous le voyons chez les autres. Mais certains de nos péchés sont considérés parfois comme acceptables. Par exemple, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut commencer à tomber dans la médisance et on dit tout de suite « Mais non, ce n'est pas de la médisance, je constate les faits. » Oh. Combien de fois j'ai eu cette réflexion en moi ? Et il y a d'autres choses. Par exemple, et je parle pour moi et peut-être pour vous aussi, on peut être angoissé par l'avenir ou par toutes sortes de choses qui nous arrive. Et je crois que c'est un manque de confiance en la toute-puissance de Dieu. Lorsque nous sommes angoissés parce que quelque chose, à raison, nous fait peur dans notre vie, dans nos projets, dans les gens que nous aimons qui sont autour de nous, eh bien, si nous sommes angoissés, c'est que nous ne faisons pas entièrement confiance en Dieu. Il y a une chanson peut-être que vous connaissez de Francis Cabrel, La cabane du pêcheur, et je la réécoutais il n'y a pas longtemps. Et à un moment, il dit quelque chose comme « Il y a sûrement quelqu'un au-dessus de l'univers ». Je dis « Ah ça, c'est bien ». Et il continue par dire « Peut-être que tu lui demandes plus qu'il ne peut ». Ça, c'est un manque de confiance. Nous ne pouvons pas vivre sans savoir que Dieu est le maître de tout ce qui va nous arriver. Et nous ne pouvons pas vivre dans l'angoisse perpétuelle parce que nous avons peur de choses qui peuvent être graves et difficiles. Si nous faisons confiance en Dieu, eh bien, nous arriverons à avoir cette confiance. Et le fait de ne pas avoir cette confiance, c'est un péché. Souvent, on dit « Oh non, c'est pas un péché, c'est parce que j'ai peur ». Oui, mais c'est quand même un manque de confiance en Dieu. On a aussi dans nos comportements, dans toute notre vie, il y a les comportements que nous avons ici à l'Église, et puis il y a les comportements que nous avons en dehors de l'Église. Ça aussi, c'est parfois différent, et il faut se méfier. Parfois, pour ne pas blesser des gens, nos amis, et même parfois les membres de notre famille, eh bien, nous allons édulcorer le message de l'Évangile et de ses enseignements, et annoncer un Évangile un peu tronqué, un peu faible, car nous n'annonçons pas exactement ce que Dieu veut pour nous. Et j'en ai fait l'expérience moi-même dans ma famille. Parfois, certains mots aussi nous font peur. Le zèle, c'est pas un beau mot, le zèle. Être zélé pour le Seigneur, c'est pas quelque chose, peut-être pour vous, vous l'avez dans vos têtes, mais c'est pas quelque chose que j'ai dans mon cœur. Avoir de l'effort pour notre salut, avoir des responsabilités. Alors, nous sommes un petit peu comme des âmes perdues, entre le légalisme qui dit que le salut viendrait de nos œuvres, où il faut faire ça pour être sauvé, et puis, à l'extrême, l'antinomisme qui dit que le salut sans que l'obéissance au commandement du Seigneur est nécessaire. Vous voyez, ça peut aller dans les deux sens. Mais c'est pas grave, je suis sauvé, je peux faire n'importe quoi. Obéir à Jésus, c'est autre chose. Souvent, nous chantons Jésus, on l'a chanté ce matin, notre roi. Est-ce qu'il est vraiment notre roi? Renoncer à nous-mêmes ne va pas toujours de pair avec notre liberté. Nombreux ont accueilli, et avec raison, à bras ouverts, la liberté apportée par le Christ, mais ont pratiquement tourné le dos à l'enseignement du Christ et à sa vérité. C'est difficile de vivre ça dans nos vies. J'en parlais récemment avec dans mon activité professionnelle, et c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, et je sais qu'il est chrétien, et on en parle à chaque fois. Et il me dit, vous savez, j'ai fait tellement d'erreurs. Il est tout seul dans sa famille, son épouse n'est pas croyante, ses enfants ne sont pas croyants. Il dit, j'ai fait tellement d'erreurs que même une Bible ouverte dans la maison, mon épouse la met à la poubelle, la jette. Il dit, je suis tellement peiné pour ça. Il dit, j'ai tellement fait d'erreurs, parce qu'il a voulu enseigner ses enfants, et les enfants ont refusé, ça faisait un conflit entre son épouse et lui, et c'est la difficulté de rester fidèle à la parole, et finalement, non plus de faire de bêtises. Et je veux que vous l'ayez dans vos pensées, car il m'a demandé, je lui ai dit, je prierai pour vous, pour que cette relation qu'il y a, qui est difficile, eh bien, s'apaise. Alors, l'autre chose auquel Jésus nous demande, c'est qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, il ne faut pas attendre les circonstances qui, dans nos vies, vont nous obliger à justement donner notre vie au Seigneur. Mais il faut volontairement la donner à Jésus. Ce qui va donner de la valeur à notre consécration, ce n'est pas simplement notre décision de suivre Jésus et de nous charger de notre croix, c'est l'acte volontaire que nous accomplissons tout en sachant que nous n'agissons pas par obligation, mais par amour envers notre Seigneur. Si nous voulons suivre notre Seigneur, il faut pas le faire en disant « c'est mon devoir ». Non, Jésus ne veut pas de ça. Vous vous souvenez du début de la phrase ? « Si quelqu'un veut me suivre, il ne nous oblige pas. » Il faut accepter son invitation et remplir les conditions d'un tel service. L'apôtre Paul, il le dira en Galates, chapitre 6, versets 14 à 15, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Le Seigneur nous demande uniquement ça, de le suivre et d'être une nouvelle création. Nous devons comprendre que porter sa croix ne se réfère pas aux épreuves que nous appelons des croix. « Oh, j'ai cette croix, j'ai ça à faire. » Non, ce n'est pas ça, porter sa croix pour le Seigneur. Mais c'est un abandon de sa vie journellement répété. Et il faut cesser de confondre une croix avec la croix. Il faut sans cesse lâcher le gouvernail de notre vie et le redonner sans cesse à Jésus. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. Je l'ai eu dans les deux sens, lorsque j'étais petit ou quand je faisais un cadeau à mes parents, ou peut-être vous avez eu ça avec vos enfants. Ils vous font un cadeau pour la fête des mères ou la fête des pères et ils ont tellement travaillé dessus qu'ils vous le donnent, mais ils auraient tellement envie de le garder et de le reprendre. Je ne sais pas si vous avez eu cette idée-là, mais souvent ça arrive. L'enfant donne le cadeau et puis deux minutes après, hop, il le reprend parce que c'est... Nous sourions, mais c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous donnons à Dieu et nous voulons reprendre notre liberté. Seigneur, je te donne ma vie et notre décision ne tient pas souvent dans la durée. Il y a une histoire que j'aime bien raconter, c'est... Vous savez, lorsqu'on a chanté ça ce matin, j'ai pas demandé à Pierre de choisir les cantiques, mais c'était exactement ça. On a parlé de Jésus comme étant notre roi auquel nous devons obéir et auquel nous devons donner notre vie. Eh bien, c'est cette histoire où, un peu une comparaison avec une voiture, quand vous êtes sans Jésus, vous êtes dans votre voiture et vous conduisez et vous allez où vous voulez. Et un jour, il y a Jésus sur le bord de la route qui vous arrête. Et Seigneur dit, tu prends toute ma vie. Prends la direction, prends tout ce que tu veux que je fasse. Et le Seigneur dit, d'accord Pierre, assis-toi à côté, moi je vais conduire. Et on part. Et là c'est fantastique. Jésus nous emmène où il veut que nous allions. Puis à un moment, Seigneur, j'aimerais bien conduire un petit peu, mais je ne rejette pas ta présence et puis ta domination sur moi, je ne la rejette pas. Mets-toi à côté de moi et puis tu me diras, quand je ne prends pas le bon chemin, et je te suivrai. Et là, on change de place et on reprend la voiture. Et puis, il y a des routes. Et puis, on prend une route qui n'est pas terrible. Et Jésus tapote sur l'épaule, il dit, Pierre, c'est pas cette route-là. Seigneur, t'inquiète pas, il y a toujours des petites perpendiculaires et je peux toujours rattraper la bonne route. Continue. Et puis, tout d'un coup, on voit des amis sur le bord de la route. Et le Seigneur dit, continue, t'arrête pas là. Mais ouais, mais je les connais tellement. C'est ma famille. On s'arrête, et puis on ouvre la porte, et les amis, la famille, moi j'aimerais bien aller devant avec toi, Pierre. Seigneur, est-ce que tu peux passer derrière, s'il te plaît ? Jésus descend et se met derrière, et on redémarre. Et puis tout d'un coup, on tape sur ton épaule, Pierre, c'est pas la bonne route. T'inquiète pas, Seigneur, je peux toujours prendre la perpendiculaire, je retrouverai la bonne route, comme tu veux. Continue. Et puis, sur le bord de la route, on voit encore des gens, et je m'arrête. Et les gens disent, ben, Jésus, mets-toi un petit peu plutôt de l'autre côté, là, comme ça, et puis les deux autres personnes vont pouvoir s'asseoir à ma place, à ta place, oui. Et on n'entend plus Jésus. Il ne peut plus nous toucher, il ne peut plus même nous donner des coups de genoux dans le siège pour sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On continue. Et puis, on arrive, il y a un moment, on dit, ah, il faut que j'aille faire des courses, on va pique-niquer. Seigneur, tu peux aller dans le coffre, parce que j'ai encore deux ou trois affaires à mettre. Et on met Jésus dans le coffre. Et là, on ne l'entend plus du tout. On ne l'entend plus du tout. On continue. Ah ! Et j'ai oublié les boissons. J'ai oublié... On va s'arrêter au supermarché. Ah ouais, mais je vais mettre ça où ? Ah ben dans le coffre. Seigneur, tu peux descendre du coffre ? Et puis on laisse le Seigneur sur la route. Et on repart. Et là, c'est cuit. Est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes ? Jésus attend d'être le bienvenu. Il ne s'impose pas. Et sa parole peut rester dans nos cœurs, dans votre cœur. Mais parfois, elle est rejetée. Suivre Jésus, ce n'est pas passer devant lui, c'est rester derrière lui. Et sa parole, ce n'est pas tracer notre route selon nos désirs et notre liberté humaine. Alors, ce n'est pas toujours un chemin tranquille. Souvent, on a envie de reprendre le volant et puis de conduire nous-mêmes, de faire notre route. Ce chemin, il est fait souvent de renoncement, qu'il renonce à lui-même, mais aussi, et c'est ce qui est le plus important, la joie de savoir que notre amour pour Jésus et pour sa parole grandit en nous. Si nous faisons ça avec entraînant des pieds de plomb, ça ne tiendra pas. Jésus va être vite débarqué, hein, je peux vous le dire. Il va être vite débarqué de votre voiture. Il faut que le Seigneur nous aide à prendre de bonnes décisions dans nos vies, pour nous-mêmes, pour l'Assemblée, et qu'il nous guide et que ce soit lui qui conduise vraiment notre vie. Amen.